Sixième partie. Quant à la comédie, il n'y faut pas songer. Elle causerait chez nous les plus affreux désordres. Elle servirait d'instrument aux factions, aux partis, aux vengeances particulières. Notre ville est si petite que les peintures de mœurs les plus générales dégénéreraient bientôt en satire et personnalité. L'exemple de l'ancienne Athènes, ville incomparablement plus peuplée que Genève, nous offre une leçon frappante. C'est au théâtre qu'on y prépara l'exil de plusieurs grands hommes et la mort de Socrate. C'est par la fureur du théâtre qu'Athènes périt, et ses désastres ne justifièrent que trop le chagrin qu'avait témoigné Solon aux premières représentations de Thespis. Ce qu'il y a de bien sûr pour nous, c'est qu'il faudra mal augurer de la République quand on verra les citoyens travestis en beaux esprits s'occuper à faire des vers français et des pièces de théâtre, talents qui ne sont point les nôtres et que nous ne posséderons jamais. Mais que M. de Voltaire daigne nous composer des tragédies sur le modèle de la mort de César, du premier acte de Brutus, et s'il nous vaut absolument un théâtre, qu'il s'engage à le remplir toujours de son génie et à vivre autant que ses pièces. Je serais d'avis qu'on pesât mûrement toutes ces réflexions avant de mettre en ligne de compte le goût de parure et de dissipation que doit produire parmi notre jeunesse l'exemple des comédiens. Mais enfin, cet exemple aura son effet encore, et si généralement partout les lois sont insuffisantes pour réprimer des vices qui naissent de la nature des choses, comme je crois l'avoir montré, combien plus le seront-elles parmi nous où le premier signe de leur faiblesse sera l'établissement des comédiens ? Car ce ne seront point eux proprement qui auront introduit ce goût de dissipation. Au contraire, ce même goût les aura prévenus, les aura introduits eux-mêmes, et ils ne seront que fortifiés à un penchant déjà tout formé qui, les ayant fait admettre, à plus forte raison les fera maintenir avec leurs défauts. Je m'appuie toujours sur la supposition qu'ils subsisteront commodément dans une aussi petite ville, et je dis que si nous les honorons, comme vous le prétendez, dans un pays où tous sont à peu près égaux, ils seront les égaux de tout le monde et auront plus la faveur publique qu'ils auraient naturellement acquise. Ils ne seront point, comme ailleurs, tenus en respect par les grands dont ils recherchent la bienveillance et dont ils craignent la disgrâce. Les magistrats leur en imposeront, soit, mais ces magistrats auront été particuliers. Ils auront pu être familiers avec eux, ils auront des enfants qui le seront encore, des femmes qui aimeront le plaisir. Toutes ces liaisons seront des moyens d'indulgence et de protection auxquels il sera impossible de résister toujours. Bientôt les comédiens, sûrs de l'impunité, la procureront encore à leurs imitateurs. Et c'est par eux qu'aura commencé le désordre, mais on ne voit plus où il pourra s'arrêter. Les femmes, la jeunesse, les riches, les gens oisifs, tout sera pour eux, tout éludera des lois qui les gênent, tout favorisera leur licence. Chacun, cherchant à les satisfaire, croira travailler pour ses plaisirs. Quel homme osera s'opposer à ce torrent, si ce n'est peut-être quelque ancien pasteur rigide qu'on n'écoutera point, et dont le sens et la gravité passeront pour pédanterie chez une jeunesse inconsidérée? Enfin, pour peu qu'ils joignent d'art et de manège à leur succès, je ne leur donne pas 30 ans pour être les arbitres de l'État. On verra les aspirants aux charges briguer leur faveur pour obtenir les suffrages. Les élections se feront dans les loges des actrices et les chefs d'un peuple libre seront les créatures d'une bande d'historiens. La plume tombe des mains à cette idée. Qu'on écarte tant qu'on voudra, qu'on m'accuse d'outrer la prévoyance, je n'ai plus qu'un mot à dire. Quoi qu'il arrive, il faudra que ces gens-là reforment leurs mœurs parmi nous, ou qu'ils corrompent les nôtres, et quand cette alternative aura cessé de nous effrayer, les comédiens pourront venir, ils n'auront plus de mal à nous faire. Voilà, monsieur, les considérations que j'avais à proposer au public et à vous, sur la question qu'il vous a plu d'agiter dans un article où elle était à mon avis tout à fait étrangère. Quand mes raisons moins sottes qu'elles ne me paraissent, n'auraient pas eu un poids suffisant pour contrebalancer les vôtres. Vous conviendrez au moins que, dans un aussi petit État que la République de Genève, toutes innovations sont dangereuses et qu'il n'en faut jamais faire sans des motifs urgents et graves. Qu'on nous montre donc la pressante nécessité de celle-ci. Où sont les désordres qui nous forcent de recourir à un expédient si suspect? Tout est-il perdu sans cela? Notre ville est-elle si grande? Le vice et l'oisiveté y ont-ils déjà fait un tel progrès qu'elle ne puisse plus désormais subsister sans spectacle? Vous nous dites qu'elle en souffre de plus mauvais et qui choque également le goût et les mœurs. Mais il y a bien de la différence entre montrer de mauvaises mœurs et attaquer les bonnes. Car ce dernier effet dépend moins des qualités du spectacle que de l'impression qu'il cause. En ce sens, quel rapport entre quelques farces passagères et une comédie à demeure, entre les polissonneries d'un charlatan et les représentations régulières des ouvrages dramatiques, entre des tréteaux de foire élevés pour réjouir la populace et un théâtre estimé où les jeunes gens penseront s'instruire? L'un de ces amusements est sans conséquence et reste oublié dès le lendemain. Mais l'autre est une affaire importante qui mérite toute l'attention du gouvernement. Par tout pays, il est permis d'amuser les enfants, et peut-être enfant lui veut dans beaucoup d'inconvénients. Mais si ces fades spectacles manquent de goût, tant mieux, on s'en rebutera plus vite. S'ils sont grossiers, ils seront moins séduisants. Le vice ne s'insinue guère en choquant l'honnêteté, mais en prenant son image. Et les mots sales sont plus contraires à la politesse qu'aux bonnes mœurs. Voilà pourquoi les expressions sont toujours plus recherchées et les oreilles plus scrupuleusement vivent dans les pays plus corrompus. S'aperçoit-on que les entretiens de la halle en chaussent beaucoup la jeunesse qui les écoute? S'ils font bien les indiscrets propos du théâtre, il vaudrait mieux qu'une fille vit sans parade qu'une seule représentation de l'oracle. Au reste, j'avoue que j'aimerais mieux, quant à moi, que nous puissions nous passer entièrement de tous ces tréteaux et que, petits et grands, nous sussions tirer nos plaisirs et nos devoirs de notre état et de nous-mêmes. Mais ce qu'on devrait peut-être chasser les bateleurs, il ne s'ensuit pas qu'il faille appeler les comédiens. Vous avez vu dans votre propre pays la ville de Marseille se défendre longtemps d'une pareille innovation, résister même aux ordres réitérés du ministre et garder encore, dans ce mépris d'un amusement frivole, une image honorable de son ancienne liberté. Quel exemple pour une ville qui n'a pas encore perdu la sienne! Or qu'on ne pense pas surtout faire un pareil établissement par manière d'essai, sauf à l'abolir, quand on en sentira les inconvénients. Car ces inconvénients ne se détruisent pas avec le théâtre qui les produit. Ils rêvent rester quand leur cause est ôtée, et dès qu'on commence à les sentir, ils sont irrémédiables. Nos mœurs altérées, nos goûts changés, ne se rétabliront pas comme ils se seront corrompus. Nos plaisirs même, nos innocents plaisirs, auront perdu leur charme. Le spectacle nous en aura dégoûté pour toujours. L'oisiveté devenue nécessaire, les vides du temps que nous ne saurons plus remplir, nous rendront à charge à nous-mêmes. Les comédiens en partant nous laisseront l'ennui pour art de leur retour. Il nous forcera bientôt à les rappeler ou à faire pis. Nous aurons mal fait d'établir la comédie. Nous serons mal de la laisser subsister. Nous serons mal de la détruire. Après la première faute, nous n'aurons plus que le choix de nos mots. Quoi, alors il ne faut donc aucun spectacle dans une république? Au contraire, il en faut beaucoup. C'est dans les républiques qu'ils sont nés, c'est dans leur sein qu'on les voit briller avec un véritable air de fête. À quel peuple convient-il mieux de s'assembler souvent et de former entre eux les doux liens du plaisir et de la joie, qu'à ceux qui ont tant de raisons de s'aimer et de rester à jamais unis? Nous avons déjà plusieurs de ces fêtes publiques. Ayons-en davantage encore, je n'en serai que plus charmé. Mais n'adoptons point ces spectacles exclusifs qui renferment tristement un petit nombre de gens dans un antre obscur, qui les tiennent craintifs et immobiles dans le silence et l'inaction, qui n'offrent aux yeux que cloisons, que pointes de fer, que soldats, qu'affligeantes images de la servitude et de l'inégalité. Non, peuples heureux, ce ne sont pas là vos fêtes. C'est en plein air, c'est sous le ciel qu'il faut vous rassembler et vous livrer aux doux sentiments de votre bonheur. Que vos plaisirs ne soient ni efféminés ni mercenaires, que rien de ce qui sent la contrainte et l'intérêt ne les empoisonne, qu'ils soient libres et généreux comme vous, que le soleil éclaire vos innocents spectacles, vous en formerez un vous-même, le plus digne qu'il puisse éclairer. Mais quels seront enfin les objets de ces spectacles? Qui montrera-t-on? Rien, si l'on veut. Avec la liberté, partout où règne l'affluence, le bien-être y règne aussi. Plantez au milieu d'une place un piquet couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Faites mieux encore. Donnez les spectateurs en spectacle, rendez les acteurs eux-mêmes. Faites que chacun se voie et s'aime dans les autres, afin que tous s'en soient mieux unis. Je n'ai pas besoin de renvoyer aux yeux des anciens Grecs. Il en est de plus modernes, il en est d'existence encore, et je les trouve précisément parmi nous. Nous avons tous les ans des revues, des prix publics, des rois de l'arquebuse, du canon, de la navigation. On ne peut trop publier des établissements utiles et si agréables. On ne peut trop avoir de semblables rois. Pourquoi ne serions-nous pas, pour nous rendre dispos et robustes, ce que nous saisons pour nous exercer aux hommes? La République a-t-elle moins besoin d'ouvriers que de soldats? Pourquoi, sur le modèle des prix militaires, ne fonderions-nous pas d'autres prix de gymnastique pour la lutte, pour la course, pour le disque, pour divers exercices du corps? Pourquoi n'animerions-nous pas nos bateliers par des joutes sur le lac? Y aurait-il au monde un plus brillant spectacle que de voir sur ce vaste et superbe bassin des centaines de bateaux élégamment équipés partir à la fois au signal donné pour aller enlever un drapeau arboré au but, pour y servir de cortège aux vainqueurs venant en triomphe recevoir le prix mérité? Toutes ces sortes de fêtes ne sont dispendieuses qu'autant qu'on le veut bien, et le seul concours les rend assez magnifiques. Cependant, il faut y avoir assisté chez le Genevois pour comprendre avec quelle ardeur il s'y livre. On ne le reconnaît plus, ce n'est plus ce peuple si rangé qui ne se départ point de ses règles économiques, ce n'est plus ce long raisonneur qui pèse tout jusqu'à la plaisanterie, à la balance du jugement. Il est vif, gai, caressant. Son cœur est alors dans ses yeux, comme il est toujours sur ses lèvres. Il cherche à communiquer sa joie et ses plaisirs. Il invite, il presse, il force, il se dispute les survenants. Toutes les sociétés n'en sont qu'une, tout devient commun à tous. Il est presque indifférent à quelle table on se mette. Ce serait l'image de celle de Lacédémone s'il n'y régnait un peu de profusion. Mais cette perfusion même est alors bien placée, et l'aspect de l'abondance rend plus touchant celui de la liberté qui la produit. L'hiver, tant consacré au commerce privé des amis, convient moins aux fêtes publiques. Il en est pourtant une espèce dont je voudrais bien qu'on le fît moins de scrupules, savoir les bals entre de jeunes personnes à marier. Je n'ai jamais bien connu pourquoi l'on s'effarouche si fort de la danse et des assemblées qu'elle occasionne. Comme s'il y avait plus de mal à danser qu'à chanter. Que l'un et l'autre de ces abusements ne fût pas également une inspiration de la nature et que ce fût un crime à ceux qui sont destinés à s'unir de s'égayer en commun par une honnête récréation. L'homme et la femme ont été formés l'un pour l'autre. Dieu veut qu'ils suivent leur destination, et certainement le premier et le plus saint de tous les liens de la société est le mariage. toutes les fausses religions combattent la nature. La nôtre, celle qui la suit et la règle, annonce une institution divine et convenable à l'homme. Elle ne doit point ajouter sur le mariage, aux embarras de l'ordre civil, des difficultés que l'Évangile ne prescrit pas et que tout bon gouvernement condamne. Mais, qu'on me dise où de jeunes personnes à marier auront l'occasion de prendre du goût l'un et l'autre et de se voir avec plus de décence et de circonspection que dans une assemblée où les yeux du public, incessamment ouverts sur elles, les forcent à la réserve, à la modestie, à s'observer avec le plus grand soin. En quoi Dieu est-il offensé par un exercice agréable, salutaire, propre à la vivacité des jeunes gens, qui consiste à se présenter l'un à l'autre avec grâce et bienséance, et auquel le spectateur impose une gravité dont on oserait sortir un instant? Peut-on imaginer un moyen plus honnête de ne point tromper autrui, du moins quant à la figure, et de se montrer avec les agréments et les défauts qu'on peut avoir aux gens qui ont intérêt de nous bien connaître avant de s'obliger à nous aimer? Le devoir de se chérir réciproquement n'emporte-t-il pas celui de se plaire? Et n'est-ce pas un soin digne de deux personnes vertueuses et chrétiennes qui cherchent à s'unir, de préparer ainsi leur cœur à l'amour mutuel que Dieu leur impose? Qu'arrive-t-il dans ces lieux où règne une contrainte éternelle, où l'on punit comme un crime la plus innocente gaieté, où les jeunes gens des deux sexes n'osent jamais s'assembler en public, et où l'indiscrète sévérité d'un pasteur ne fait prêcher au nom de Dieu qu'une gêne servile et la tristesse et l'ennui? On est lu d'une tyrannie insupportable que la nature et la raison désavouent. Au plaisir permis dont on prive une jeunesse en jouets folâtres, on en substitue le plus dangereux. Les têtes à têtes adroitement concertées prennent la place des assemblées publiques, et à force de se cacher, comme si on en était coupable, on est tenté de le devenir. L'innocente joie aime à s'évaporer au grand jour, mais le vice est ami des ténèbres. Et jamais l'innocence et le mystère n'habitèrent longtemps ensemble. Pour moi, loin de blâmer de si simples amusements, je voudrais au contraire qu'ils fussent publiquement autorisés, et qu'on y prévint tout désordre particulier en les convertissant en bals solennels et périodiques, ouverts indistinctement à toute la jeunesse à marier. Je voudrais qu'un magistrat, nommé par le Conseil, ne dédaignât pas de présider à ces bals. Je voudrais que les pères et mères y assistent pour veiller sur leurs enfants, pour être témoins de leur grâce et de leur adresse, des applaudissements qu'ils auraient mérités et jouir ainsi du plus doux spectacle qui puisse toucher un cœur paternel. Je voudrais qu'en général, toute personne mariée fût admise au nombre des spectateurs et des juges, sans qu'il fût permis à aucune de profaner la dignité conjugale en dansant elle-même. Car à quelle fin honnête pourrait-elle se donner ainsi en montre au public? Je voudrais qu'on formât dans la salle une enceinte commode et honorable, destinée aux gens âgés de l'un et de l'autre sexe, qui, ayant déjà donné des citoyens d'apatrie, verraient encore aux petits-enfants se préparer à le devenir. Je voudrais que nul n'entrât ni ne sortît sans chaleur de ce parquet, et que tous les couples de jeunes gens vinssent avant de commencer leur danse, et après l'avoir fini, y faire une profonde révérence, pour s'accoutumer de bonne grâce à respecter la vieillesse. Je ne doute pas que cette agréable réunion des deux termes de la vie humaine ne donnât à cette assemblée un certain coup d'œil assandrissant, et qu'on ne vit quelquefois couler dans le parquet des larmes de joie et de souvenirs capables peut-être d'en arracher un à un spectateur sensible. Je voudrais que tous les ans, au dernier bal, la jeune personne qui, durant les précédents, se serait comportée le plus honnêtement, le plus modestement, et aurait plu davantage à tout le monde au jugement du parquet, fut honorée d'une couronne par la main du Seigneur commis. et du titre de reine du bal qu'elle pourrait torturer toute l'année. Je voudrais qu'à la clôture de la même assemblée, on la reconduisît en cortège, que le père et la mère fussent félicités, remerciés d'avoir une fille si bien née et de l'élever si bien. Enfin, je voudrais que, si elle venait à se marier dans le cours de l'an, la seigneurie lui fit un présent ou lui accorda quelques distinctions publiques, afin que cet honneur fût une chose assez sérieuse pour ne pouvoir jamais devenir un sujet de plaisanterie. Il est vrai qu'on aurait souvent à craindre un peu de partialité si l'âge des juges ne laissait toute la préférence au mérite. Et quand la beauté modeste serait quelquefois favorisée, quel en serait le grand inconvénient? Ayant plus d'assauts à soutenir, n'a-t-elle pas besoin d'être plus encouragée? N'est-elle pas un don de la nature ainsi que les talents? Ou est-ce le mal qu'elle obtienne quelques honneurs qui l'excitent à se rendre digne et puisse contenter l'amour-propre sans offenser la vertu? En perfectionnant ce projet, dans les mêmes vues, sous un air de galanterie et d'amusement, on donnerait à ces fêtes plusieurs fins utiles, qui en seraient un objet important de police et de bonne mœurs. La jeunesse, ayant des rendez-vous sûrs et honnêtes, serait moins tentée d'en chercher de plus dangereux. Chaque sexe se livrerait plus patiemment, dans les intervalles, aux occupations et aux plaisirs qui lui sont propres, et s'en consolerait plus aisément d'être privé du commerce continuel de l'autre. Les particuliers de tout état auraient la ressource d'un spectacle agréable, surtout aux pères et aux mères. Les soins pour la parure de leurs filles seraient pour les femmes un objet d'amusement, qui serait diversion à beaucoup d'autres. Et cette parure, ayant un objet innocent et louable, serait là tout à fait à sa place. Ces occasions de s'assembler pour s'unir et d'arranger des établissements seraient des moyens fréquents de rapprocher les familles divisées et d'affermir la paix, si nécessaire dans notre État. Sans altérer l'autorité des pères, les inclinations des enfants seraient un peu plus en liberté. Le premier choix dépendrait un peu plus de leur cœur. Les convenances d'âge, d'humeur, de goût, de caractère seraient un peu plus consultées. On donnerait moins à celles d'état et de bien qui font des nœuds mal assortis quand on les suit aux dépens des autres. Les liaisons devenant plus faciles, les mariages seraient plus fréquents. Ces mariages, moins circonscrits par les mêmes conditions, préviendrait les partis, tempérerait l'excessive inégalité, maintiendrait mieux le corps du peuple dans l'esprit de sa constitution. Ces bals, ainsi dirigés, ressembleraient moins à un spectacle public qu'à l'assemblée d'une grande famille, et du sein de la joie et des plaisirs naîtrait la conservation, la concorde et la prospérité de la République. Parenthèse. Il me paraît plaisant d'imaginer quelquefois les jugements que plusieurs porteront de mes goûts sur mes écrits. Sur celui-ci, l'on ne manquera pas de dire « Mais cet homme est fou de la danse, je m'ennuie à voir danser, il ne peut souffrir la comédie, moi j'aime la comédie à la passion, il a de l'aversion pour les femmes, je ne serais que trop bien justifié là-dessus, il est mécontent des comédiens. » Moi, j'ai tout sujet de m'en louer, et l'amitié du seul d'entre eux que j'ai connu particulièrement ne peut qu'honorer un honnête homme. Même jugement sur les poètes, dont je suis forcé de censurer les pièces. Ceux qui sont morts ne seront pas de mon goût, et je serai piqué contre les vivants. La vérité est que Racine me charme, et que je n'ai jamais manqué volontairement une représentation de Molière. Si je vois parler de Corneille, c'est qu'ayant peu fréquenté ses pièces et manquant de livres, il ne m'est pas assez resté dans la mémoire. Quant à l'auteur d'Atrée et de Catilina, je ne l'ai jamais vu qu'une fois, et ce fut pour en recevoir un service. J'estime son génie et respecte sa vieillesse, mais quelque honneur que je porte à sa personne, je ne dois que justice à ses pièces. Et je ne sais point acquitter mes dettes aux dépens du bien public et de la vérité. Si mes écrits m'inspirent quelque fierté, c'est par la pureté d'intention qui les dicte, c'est par un désintéressement dont peu d'auteurs m'ont donné l'exemple et que fort peu voudront imiter. Jamais vue particulière ne fouilla le désir d'être utile aux autres qui m'a mis la plume à la main. Et j'ai presque toujours écrit contre mon propre intérêt. Vitam impedere uero, voilà la devise que j'ai choisie et dont je me sens digne. Lecteur, je puis me tromper moi-même, mais non pas vous tromper volontairement. Craignez mes erreurs et non ma mauvaise foi. L'amour du bien public est la seule passion qui me fait parler au public. Je sais alors m'oublier moi-même, et si quelqu'un m'offense, je me tais sur son compte de peur que la colère ne me rende injuste. Cette maxime est bonne à mes ennemis en ce qu'ils me nuisent à leur aise et sans crainte de représailles aux lecteurs qui ne craignent pas que ma haine leur en impose, et surtout à moi, qui restant en paix tandis qu'on m'outrage, n'est du moins que le mal qu'on me fait et non celui que j'éprouverais encore à leur rendre. Sainte et pure vérité à qui j'ai consacré ma vie, non, jamais mes passions ne souilleront le sincère amour que j'ai pour toi. L'intérêt ni la crainte sauraient altérer l'hommage que j'aime à t'offrir, et ma plume ne te refusera jamais rien que ce qu'elle craint d'accorder à la vengeance. Fin de la parenthèse. Sur ces idées, il me serait aisé d'établir à peu de frais et sans danger plus de spectacles qu'il en faudrait pour rendre le séjour de votre ville agréable et riant, même aux étrangers qui, se trouvant rien de pareil ailleurs, y viendraient au moins pour voir une chose unique. Quoique, à dire le vrai, sur beaucoup de fortes raisons, je regarde ce concours comme un inconvénient bien plus que comme un avantage. Et je suis persuadé, quant à moi, que jamais étranger n'entra dans Genève qu'il n'y ait fait plus de mal que de bien. Mais savez-vous, monsieur, que l'on devrait s'efforcer d'attirer et de retenir dans nos mœurs les Genevois eux-mêmes, qui, avec un sincère amour pour leur pays, ont tous une si grande inclination pour les voyages qu'il n'y a point de contrée où l'on en trouve de répandue. La moitié de nos concitoyens épars dans le reste de l'Europe et du monde vivent et meurent loin de la patrie, et je me citerais moi-même avec plus de douleur si j'y étais moins inutile. Je sais que nous sommes forcés d'aller chercher au coin les ressources que notre terrain nous refuse et que nous pourrions difficilement subsister si nous nous y tenions enfermés. Mais au moins que ce bannissement ne soit pas éternel pour tous, que ceux dont le ciel a béni les travaux viennent, comme l'abeille, en rapporter le fruit dans la ruche, réjouir leurs concitoyens du spectacle de leur fortune, animer l'émulation des jeunes gens, enrichir leur pays de leurs richesses et jouir modestement chez eux des biens honnêtement acquis chez les autres. Sera-ce avec des théâtres toujours moins parfaits chez nous qu'ailleurs qu'on les y fera revenir? Quitteront-ils la comédie de Paris ou de Londres pour aller revoir celle de Genève? Non, non, monsieur, ce n'est pas ainsi qu'on les peut ramener. Il faut que chacun sente qu'il ne saurait trouver ailleurs ce qu'il a laissé dans son pays. Il faut qu'un charme invincible le rappelle au séjour qu'il n'aurait pas dû quitter. Il faut que le souvenir de leurs premiers exercices, de leurs premiers spectacles, de leurs premiers plaisirs reste profondément gravé dans leur cœur. Il faut que les douces impressions faites durant la jeunesse demeurent et le renforcent dans un âge avancé, tandis que mille autres s'effacent. Il faut qu'au milieu de la pompe des grands États et de leur triste magnificence, une voix secrète leur crie incessamment au fond de l'âme: ah, où sont les jeux et les fêtes de ma jeunesse? Où est la concorde des citoyens? Où est la fraternité publique? Où est la pure joie et la véritable allégresse? Où sont la paix, la liberté, l'équité, l'innocence? Allons rechercher tout cela, mon Dieu, avec le cœur du Genevois, avec une ville aussi riante, un pays aussi charmant, un gouvernement aussi juste, des plaisirs si vrais, si purs et tout ce qu'il faut pour savoir les goûter. À quoi tient-il que nous n'adorions toute la patrie ? Ainsi rappelaient ses concitoyens, par des fêtes modestes et des jeux sans éclat, cette Sparte que je n'aurais jamais allé citer pour l'exemple que nous devions en tirer. Ainsi dans Athènes, parmi les beaux-arts, ainsi dans Suse, au sein du luxe et de la mollesse, le Spartiate ennuyé soupirait après les grossiers festins et les fatigants exercices. C'est à Sparte que, dans une laborieuse oisiveté, tout était plaisir et spectacle. C'est là que les plus rudes travaux passaient pour des récréations et que les moindres délassements formaient une instruction publique. C'est là que les citoyens, continuellement assemblés, consacraient la vie entière à des amusements qui faisaient la grande affaire de l'État et à des jeux dont on ne se délassait qu'à la guerre. J'entends déjà les plaisants me demander si, parmi tant de merveilleuses instructions, je ne veux point aussi, dans nos fêtes genevoises, introduire les danses des jeunes lacédémoniennes. Je réponds que je voudrais bien nous croire les yeux et les cœurs assez chastes pour supporter un tel spectacle et que de jeunes personnes dans cet état fussent à Genève comme à Sparte couvertes de l'honnêteté publique. Mais quelque estime que je fasse de mes compatriotes, je sais trop combien il y a loin d'eux aux lacédémoniens, et je ne leur propose des institutions de ceci que celles dont ils ne sont pas encore incapables. Si le sage Plutarque s'est chargé de justifier l'usage en question, pourquoi faut-il que je m'en charge après lui ? Tout est dit en avouant que cet usage ne convenait qu'aux élevés de Lycurgue, que leur vie frugale et laborieuse, leurs mœurs pures et sévères, la force d'âme qui leur était propre, pouvaient seules rendre innocent sous leurs yeux un spectacle si choquant pour tout peuple qui les connaît. Mais pense-t-on qu'au fond, la droite parure de nos femmes est moins son danger qu'une nudité absolue dont l'habitude tournerait bientôt les premiers effets en indifférence et peut-être en dégoût? Ne sait-on pas que les statues et les tableaux n'offensent les yeux que quand un mélange de vêtements rend les nudités obscènes? Le pouvoir immédiat des sens est faible et borné. C'est par l'entremise et l'imagination qu'ils sont leurs plus grands ravages. C'est elle qui prend soin d'irriter les désirs en prêtant à leurs objets encore plus d'attrait que ne leur en donne la nature. C'est elle qui découvre à l'œil avec scandale ce qu'il ne voit pas seulement comme nu, mais comme devant être habillé. Il n'y a point de vêtements si modestes au travers duquel un regard enflammé par l'imagination n'aille porter les désirs. Une jeune chinoise, avançant un bout de pied couvert et chaussé, fera plus de ravages à Pékin que n'eût fait la plus belle fille du monde dansant toute nue au bas du Tégète. Mais quand on s'habille avec autant d'art et si peu d'exactitude que les femmes font aujourd'hui, quand on ne montre moins que pour faire désirer davantage, quand l'obstacle qu'on oppose aux yeux ne sert qu'à mieux irriter l'imagination, quand on ne cache une partie de l'objet que pour parer celle qu'on expose, eu male tum mites defendit pampinus uvas. Terminons ces nombreuses digressions. Grâce au ciel, voici la dernière. Je suis à la fin de cet écrit. Je donnais les fêtes de Lacédémone pour modèle et celles que je voudrais voir parmi nous. Ce n'est pas seulement par leur objet, mais aussi par leur simplicité que je les trouve recommandables. Sans pompe, sans luxe, sans appareil. Tout y respirait avec un charme secret de patriotisme qui les rendait intéressantes, un certain esprit martial, convenable à des hommes libres. Je me souviens d'avoir été frappé dans mon enfance d'un spectacle assez simple et dont pourtant l'impression m'est toujours restée malgré le temps et la diversité des objets. Le régiment de Saint-Serge Gervais avait fait l'exercice et, selon la coutume, on avait troupé par compagnie. La plupart de ceux qui les composaient se rassemblèrent après le souper dans la place de Saint-Gervais et se mirent à danser tous ensemble, officiers et soldats, autour de la fontaine, sur le bassin de laquelle étaient montés les tambours, les fifres et ceux qui portaient les flambeaux. Une danse de gens égayés par un long repas semblerait n'offrir rien de fort intéressant à voir. Cependant, la corde de 500 ou 600 hommes en uniforme, se tenant tous par la main et formant une longue bande qui serpentait en cadence et sans confusion, avec 1000 tours et retours, 1000 espèces d'évolutions figurées, le choix des airs qui les animaient, le bruit des tambours, l'éclat des flambeaux, un certain appareil militaire au sein du plaisir, tout cela formait une sensation très vive qu'on ne pouvait supporter de sang-froid. Il était tard, les femmes étaient couchées, et toutes se relevèrent. Bientôt, les fenêtres furent pleines de spectatrices qui donnaient un nouveau zèle aux acteurs. Elles ne purent tenir longtemps à leurs fenêtres, elles descendirent. Les maîtresses venaient voir leurs maris, les servantes apportaient du vin. Les enfants, même éveillés par le bruit, accoururent demi-vêtus entre les pères et les mères. La danse fut suspendue. Ce ne furent qu'embrassements, riz, santé, carrosse. Il résulta de tout cela un attendrissement général que je ne saurais peindre, mais que dans l'allégresse universelle, on éprouve assez naturellement au milieu de tout ce qui nous est cher. Mon père, en m'embrassant, fut saisi d'un tressaillement que je crois sentir et partager encore. « Jean-Jacques, me disait-il, aime ton pays. Vois-tu ces beaux Genevois? Ils sont tous amis, ils sont tous frères. La joie et la concorde règnent au milieu d'eux. Tu es Genevois. Tu verras un jour d'autres peuples. Mais quand tu voyagerais autant que ton père, tu ne trouveras jamais leur pareil. » On voulut recommencer la danse, il n'y eut plus moyen. On ne savait plus ce qu'on faisait, et toutes les têtes étaient tournées d'une ivresse plus douce que celle du vin. Après avoir resté quelque temps encore à rire et à causer sur la place, il fallut se séparer. Chacun se retira paisiblement avec sa famille, et voilà comment ces aimables et prudentes femmes ramenèrent leurs maris, non pas en troublant leurs plaisirs, mais en allant les partager. Bon, je sens bien que ce spectacle dont je fus si touché serait sans attrait pour 1000 autres. Il faut des yeux faits pour le voir et un cœur fait pour le sentir. Non, il n'y a de pure joie que la joie publique, et les vrais sentiments de la nature ne règnent que sur le peuple. Ah, dignité, fille de l'orgueil et mère de l'ennui, jamais tes tristes esclaves eurent-ils un pareil moment en leur vie. Sans affaires et sans plaisir, au moins de ce qui porte ces noms parmi nous, les Spartiates passaient dans cette douce uniformité la journée, sans la trouver trop longue et la vie sans la trouver trop courte. Ils s'en retournaient chaque soir, gais et dispos, prendre leur frugal repas, contents de leur patrie, de leurs citoyens. Et de même, si l'on demande quelques exemples de ces divertissements publics, en voici un rapporté par Plutarque. Il y avait, dit-il, toujours 3 danses en autant de bandes selon la différence des âges, et ces danses se faisaient au chant de chaque bande. Celle des vieillards commençait la première en chantant le couplet suivant « Nous avons été jadis jeunes, vaillants et hardis » suivait celle des hommes, qui chantaient à leur tour en frappant de leurs armes en cadence. « Nous le sommes maintenant, à l'épreuve à tout venant. » Ensuite venaient les enfants, qui leur répondaient en chantant de toute leur force. « Et nous serons bientôt, et nous surpasserons. » Voilà, monsieur, les spectacles qu'il faut à des républiques. Quant à celui dont votre article Genève m'a forcé de traiter dans cet essai, si jamais l'intérêt particulier vient à bout de l'établir dans nos murs, j'en prévois les tristes effets. J'en ai montré quelques-uns, j'en pourrais montrer davantage. Mais c'est trop craindre un malheur imaginaire que la vigilance de nos magistrats saura prévenir. Je ne prétends point instruire des hommes plus sages que moi. Il me suffit d'en avoir dit assez pour consoler la jeunesse de mon pays d'être privée d'un amusement qui coûterait si cher à la patrie. J'exhorte cette heureuse jeunesse à profiter de la vie qui termine votre article. Puisse-t-elle connaître et mériter son sort? Puisse-t-elle sentir toujours combien le solide bonheur est préférable aux vains plaisirs qui le détruisent? Puisse-t-elle transmettre à ses descendants les vertus, la liberté, la paix qu'elle tient de ses pères? C'est le dernier vœu par lequel je finis mes écrits, c'est celui par lequel finira ma vie.